Chapitre 3, le chef. Il n'entra pas comme un homme qui se précipite vers un but qu'il veut atteindre malgré tout et le plus vite possible. Il avait dû ralentir sa marche, s'attarder aux souvenirs qui se dressaient de toutes parts et reprendre possession de lui-même en même temps que de toutes les choses qu'il accueillait dans cette région de son enfance. Il demeura sur le seuil. Il était chez lui, maître du logis quitté depuis si longtemps. Nathalie voyait en plein son visage calme, imprégné d'une certaine émotion presque heureuse, et plutôt que la face si souvent pathétique d'Hélène Rock, elle retrouvait l'image de Jean de Plouvanec telle que la photographie la montrait. La brise amena par bouffées le son des cloches qui célébraient l'élévation. La vieille pendule se déclencha et frappa 11 coups, remplissant la pièce de sa voix grave et familière. D'un regard circulaire et sans bouger, Hélène Rock examine les murs, les objets et les meubles. Sa vie d'autrefois remonte à la surface avec son cortège de grandes joies, de petites peines et de pure affection. C'est comme une onde bienfaisante qui ranime et rafraîchit tout ce qui sommeille encore dans son cerveau. Quel apaisement, quelle résurrection! En quelque part résolu, il avance, sachant où il va et ce qu'il veut. Il se dirige vers la table et saisit la photographie de sa mère, qu'il contemple longuement. Ses lèvres murmurent. 30 octobre 1914, le jour de sa mort. Oui, j'ai appris cela là-bas en captivité. La bonne dame de Plouvanec. Il continue son inspection, se remettant en contact avec les heures lointaines. Il prend le volume ouvert et lit à l'endroit marqué. Quel est ce charme que la troupe des corsaires reconnaissait à son chef? Il n'achève pas. Il se souvient et prononce tout bas « Armel ». Armel Danilis. Machinalement, il soulève les crayons, les porte-plumes, les papiers bien rangés, tous les accessoires d'un bureau d'homme. Le geste vif, sous l'impulsion d'une idée soudaine, il prend dans un coffret une clé avec laquelle il ouvre un tiroir. Il y trouve aussitôt un parchemin qu'il déroule. Il se dresse et lit à haute voix. « Jean de Plouvanec, baron de Bretagne et comte de Normandie. Chevalier de Jérusalem et par ordonnance du roi Saint-Louis, rendu en faveur du chef de la maison après la troisième croisade, prince de Jéricho. » Il répète anxieusement. « Prince de Jéricho. Jéricho. » Ses yeux fixes réfléchissent. Les cloches s'éloignent au loin. À cet instant, Nathalie eut l'impression subite et terrifiante que le dénouement allait se produire. Jean de Plouvanec ne pouvait s'attarder bien longtemps encore dans cette salle qui n'était qu'une partie du pèlerinage où son élan le poussait de manière irrésistible. Il s'approcherait d'une des fenêtres pour voir le paysage des ruines et alors il la découvrirait, elle, Nathalie. Ou bien il s'en irait vers le palier et c'était le choc avec les trois bandits. Drame inévitable. Chacune des secondes que l'horloge annonçait le rendait plus proche. Nathalie maintenant épiait la tapisserie du palier. Les assassins étaient là. Ils se préparaient. L'étoffe tremblait un peu. Entre elle et le chambranle de la porte, le canon du fusil apparut. Et presque en même temps, deux choses se produisirent. L'appel de Nathalie et une détonation qu'une autre suivit immédiatement. « Hélène Rock !» cria la jeune fille en se jetant en avant. La double détonation avait retenti. Mais tout de même, et si peu que ce fût, le cri de secours avait précédé l'attaque de Fortville. Hélène Rock s'était baissée. Les deux balles étoilèrent la glace d'un trumeau qui surmontait un guéridon. Les événements succédèrent à l'allure rapide et mathématique d'incidents de théâtre réglés par un metteur en scène. Bien que le hasard et la pulsion déraisonnée des personnages fussent en jeu, on eût dit qu'ils tenaient tous un rôle appris et souvent répété. Hélène Rock, qui d'abord ne s'était pas bien rendu compte de l'intervention de Nathalie et avait reculé pour se mettre à l'abri, revint de l'avant quand il reconnut dans une vision simultanée Nathalie, Fortville et ses deux acolytes. D'autre part, confondue par ce qu'elle avait fait en avertissant Hélène Rock, Nathalie restait sur place au lieu de courir à sa rencontre. Cette double hésitation devait leur être funeste. Sans même se concerter, les trois complices se ruèrent entre deux. Boniface menaçait Hélène Rock de son revolver. Fortville prenait Nathalie à la gorge en proférant « Toi, si tu t'en mêles, ton affaire est faite !» Sous l'étreinte implacable, elle ne résista pas. Fortville donna l'ordre à Boniface et à Ludovic de la surveiller. Et lui-même, le bras tendu, se tourna vers Hélène Rock. « Oh les mains !» Hélène Rock n'obéit pas à l'injonction. Il dit à Nathalie « Vous m'avez sauvé, mademoiselle, je vous remercie. » Puis il dit à Boniface, « C'est donc toi, major Boniface, tu t'es donc à coquiner avec cette vermine de Fortville. Ça ne te suffit pas de m'avoir cassé la tête une première fois et jeté à l'eau? Bigre, tu es gourmand. Le dossier d'abord, plus de chantage contre moi, ma liberté absolue, aucune dénonciation possible. Et puis, par-dessus la marché, 500 000 francs. « C'est tout ce que tu demandes ?» dit Hélène Rock. Fortville frappa du poing sur le bureau et articula furieusement, « 500 000 francs, c'est mon chiffre, 500 000. » Le major Boniface s'était approché et, pris d'un vertige subi, ébloui par l'énormité de la somme, criait en même temps que Fortville « 500 000 francs chacun, pas un sou de moins. C'est ma part. Tu m'as assez grugé quand j'étais à ton service. 500 000 francs. »« En or ?» ricana Hélène Rock. « En or ? répéta bêtement Forville que son triomphe inaugurait et qu'il ne savait plus trop ce qu'il disait. « Allons, » dit Ellenbrock en se levant, « je vois que vous bafouillez tous les deux et que vous n'en sortirez pas sans mon aide. » Forville s'effara d'apercevoir debout en face de lui la haute silhouette d'Ellenbrock et tout en le menaçant une fois encore de son revolver, il enjoignit à Boniface. « Va-t'en, retourne près de Nathalie et si elle bouge, coupe-lui la gorge à la petite. » Boniface se hâta et leva son poignard sur la jeune fille, tandis que Forville répétait « 500 000 francs. Deux chèques de 500 000 francs avec la garantie de Nathalie. Hein, c'est convenu. Nathalie, tu le jures, et on me rendra le dossier. »« Non ? Tu dis non, Ellenbrock ? Frappe, Boniface. Un coup de pointe dans la gorge. » Ellenbrock dit paisiblement « Pas un mot, mademoiselle. Ne bougez pas et ne craignez rien. »« Frappe, Boniface, et moi je tire. » Le canon du Browning effleurait le visage d'Ellenbrock. « Oui ou non, Ellenbrock, pas de phrase, mais pas de silence non plus. Oui ou non ?»«
Non. »«
Alors je tire, Boniface, tu es prêt ?»« Je compte jusqu'à 3. » Il compta lentement. « 1. »« 2. »« 3. » Ellenbrock ne bronchait pas. Nathalie, sous la menace du couteau, toute pâle mais droite et impassible, les yeux fixés sur Ellenbrock ne remuaient pas davantage. Quelques secondes s'écoulèrent. Aucune détonation. « Eh bien, plaisanta Ellenbrock, ça ne marche plus. Vous avez la frousse tous les deux ?» Il attendit. Forville et Boniface semblaient figés dans leur attitude de meurtre. Il fit signe à Boniface. « Laisse tranquille, mademoiselle Mandelsen, et donne-lui une chaise. » Puis, s'adressant à Forville, « Ne te fatigue pas non plus, Forville, ta minute est passée, mon garçon. En tirant ton double coup de fusil, tu as donné tout l'effort dont tu es capable. Tu m'as raté, tant pis pour toi, c'est fini. On ne recommence pas deux fois ces choses-là. » Forville recula pour reprendre haleine. Une table les sépara. Ellenbrock y appuya les deux mains et prononça posément ses yeux dans les yeux de l'adversaire. « Tu n'auras pas un sou et tu n'auras pas ton dossier. Quand on tient un scélérat de ton espèce, on ne le lâche pas. Le dossier est en sécurité. Si tu m'avais démoli tout à l'heure, demain, après-demain, la justice était à trait de trousse. Alors à quoi bon ? Maintenant, je conclus. C'est notre deuxième rencontre. Elle ne se terminera pas comme celle de Versailles. Tu vas dégringoler l'escalier, la tête la première. » Forville tressaillit sous la jure. Il contourna la table et se planta devant Ellenbrock pour mieux le défier. « Et c'est peut-être toi qui vas me jeter dehors ?» dit-il, essayant de prendre le même ton de moquerie que son adversaire. « Pourquoi me salir de celui-ci ? J'ai des champs pour cette besogne. Appelle-les. »« Pas la peine, ils sont là. » Forville glissa les yeux vers Boniface et Ludovic. « Tu es fou, dit-il. Ah, tu commences à t'inquiéter. Moi ? Dame, tu sens bien que j'ai gagné la partie. En vérité ? Mon Dieu, oui, et sans violence, tout doucettement. Qu'est-ce que tu chantes ? Fit l'autre qui semblait mal à l'aise. Je ne chante pas, je parle. Et c'est là ton grand tort, vois-tu ? Du moment que tu me laissais parler et agir, la situation changeait du tout au tout. Hein ? Enfin quoi ? T'imagines-tu que j'ai perdu mon temps depuis 5 minutes, crétin, et qu'une seule de mes paroles ait été prononcée pour toi ? Pour qui alors ? Pour ces deux-là, dit Ellenbrock en montrant Boniface et Ludovic. Ce n'est pas en vaincu que je combats, mais en chef. Le chef de qui ? Le chef de Boniface, mon camarade de bataille qui a reconnu ma voix. Voyons quoi, on n'a pas travaillé 10 ans sous les ordres de Géricault pour que l'on puisse échapper au baron d'Ellenbrock. Quand Géricault commandait, Boniface obéissait. Pourquoi n'obéirait-il pas quand Ellenbrock commande ? Je ne suis pas même bien sûr qu'il ait compris. À quoi bon ? C'est ma voix qui l'écoute et c'est la voix du chef qui le soumet. Tu l'as bien vu tout à l'heure quand je lui ai dit. Avance un fauteuil à mademoiselle Mandelsen. Tout de suite, Boniface et Ludovic ont avancé le fauteuil. Allons, tu es liquidé, Forville. Vous étiez 3 contre moi tout à l'heure. Nous sommes 3 contre toi. C'est 2 de trop. Prépare-toi à sauter dans le vide. Forville hésitait, épiant ses complices et tâchant de se rassurer. Il murmura. Toujours du boniment, mes amis et moi, nous sommes d'accord. N'est-ce pas, Boniface ? Hein, Ludovic ? On marche la main dans la main. Boniface et Ludovic ne répondirent pas. Brusquement, Forville eut la sensation précise que les choses, en effet, avaient tourné contre lui et qu'il était le prisonnier de l'homme qu'il avait tenu au bout de son fusil. Sa décision fut immédiate, il s'élança vers le palier. Boniface s'y trouvait déjà, comme un planton de garde. Il se précipita vers une des fenêtres. Ludovic s'y dressait. Ellenbrock cria dans un accès de gaieté. « Est-ce réglé comme manœuvre ? Quel jeu de scène ! Ah, les bougres ! Pas même besoin de les commander pour qu'ils obéissent !» Il se posta lui-même devant la petite porte basse. Les 3 issues étaient gardées, rien à faire. Il ordonna. « 10 pas en avant, camarade ! Mouvement convergent de manière à traquer la bête puante. À la bonne heure, bravo !» Boniface et Ludovic avançaient sans hâte, et Ellenbrock ricanait. « Ça y est, tu vas être empoigné. Ah, ce n'est plus comme à Versailles, hein, où ta sortie fut, somme toute, assez digne. Cette fois, c'est la dégringolade. » Fourville éclata en jurons et se mit à courir dans la salle comme une bête qui se heurte aux barreaux de sa cage. Il trépignait, il injuriait Helen Rock. Il ramassa son fusil et tenta vainement, avec des mains qui tremblaient, de le recharger. À la fin, épuisé, trébuchant, la figure en sueur, il se campa de nouveau devant Helen Rock et bégaya. « Eh bien, tu y passeras comme moi. Si tu me dénonces, j'en fais autant. Fourville en prison, soit. Mais Jéricho aussi, hein. C'est une bonne prise, Jéricho le pirate. Et pour toi, l'échafaud. » On eût dit qu'il allait avoir une crise de nerfs. Il dansait d'un pied sur l'autre en criant. « L'échafaud, oui, l'échafaud !» Il se produisit alors un fait d'une étonnante simplicité. Avec la même aisance qu'il eût déplacé une chaise de ses deux mains, Helen Rock saisit au collet son massif adversaire, le souleva et le coucha sur les bras tendus de Boniface et de Ludovic. « Oust, le plongeon, et vivement !» On entendit la dégringolade du misérable, puis quelques jurons, puis des menaces dont la clameur s'éloignait.